Aristote fut à bonne école. Celle de sa famille, celle de Platon, la sienne enfin. Lorsqu'il naît en 384 avant Jésus-Christ à Stagire, petite cité du nord de la Grèce à quelques encablures du mont Athos, son père est l'héritier d'une prestigieuse lignée de médecins. On ne sait si cet environnement explique l'intense curiosité dont il témoignera pour toutes les choses du vivant, mais on peut l'imaginer. À 17 ans, il rejoint Athènes, qui est alors la capitale intellectuelle du monde méditerranéen, et intègre l'Académie de Platon. Pendant deux décennies, il va tout y apprendre des savoirs et de la culture de son temps, depuis les théories des premiers philosophes grecs jusqu'à la dialectique socratique. Pendant quelques années, il devient le précepteur du fils du roi de Macédoine, le futur Alexandre le Grand. Puis, il revient à Athènes en 335 et fonde sa propre école, le lycée, du nom d'un gymnase où il réunissait ses élèves. À sa mort en 332, son legs est considérable et fondateur. Car à côté des traités de logique, de métaphysique, d'éthique ou de rhétorique, Aristote a développé une réflexion totalement novatrice sur le monde qui l'entoure. Ainsi, ses seuls traités sur les animaux, leur histoire, leurs organes, leur reproduction, représentent un bon tiers de toute son œuvre connue. À quoi il faut ajouter ses travaux sur les astres, la météorologie et, semble-t-il, les plantes, même si ce dernier travail ne nous est pas parvenu. Il n'est évidemment pas le premier à vouloir percer les mystères de la nature. Les mythologies les plus anciennes, dont Homère fut le poète, avaient placé les hommes dans la main capricieuse des dieux. Puis, les philosophes présocratiques, Héraclite, Empédocle, Démocrite, s'étaient employés à rationaliser cette pensée magique. Mais Aristote juge leur démarche inachevée. À ses yeux, ils n'ont pas su concevoir la multiplicité et l'articulation des causes qui expliquent la nature de chaque chose, en particulier des êtres vivants. Quant à la démarche socratique, il l'écarte en quelques lignes.
Du temps de Socrate, les recherches sur la nature cessèrent, et c'est vers la vertu utile et la politique que se tournèrent ceux qui faisaient de la philosophie.
En clair, Socrate a pensé l'homme et Platon la cité. Lui veut penser la nature, et la penser de façon scientifique. Impossible, soutenait Platon, tant les réalités naturelles sont mouvantes, hasardeuses et non démontrables, contrairement à la science des sciences, les mathématiques. C'est pourtant le défi que va relever Aristote. Pour cela, il commence par évacuer l'obsédante question de l'origine du monde. À ses yeux, il n'y a pas de Dieu créateur. L'univers est fini, fixé, une fois pour toutes. La Terre en est le centre, autour de laquelle tourne la ronde éternelle des corps célestes. Puis il distingue deux mondes. Celui qui est au-dessus de l'orbite de la Lune, le monde supralunaire, fait d'une matière spécifique et immuable. Mais Aristote reconnaît lui-même qu'il s'agit là d'une hypothèse très spéculative. Sur la nature du ciel et des astres, il écrit
« Nous ne possédons qu'une somme bien mince de connaissances. L'observation sensible ne fournit que bien peu d'évidences propres à servir de base à l'étude. »
Il en va tout autrement du monde sublunaire, la planète Terre pour aller vite. Dans ce monde-là, l'observation sensible permet la démarche scientifique et en trace le programme. Aristote est très clair.
Au sujet des substances périssables, au contraire plantes et animaux, nous nous trouvons en meilleure situation pour les connaître, puisque nous vivons avec elles. Il nous reste à parler de la nature vivante, sans laisser de côté aucun détail, ou bas, ou relevé. Entrons sans dégoût dans l'étude de chaque espèce animale. En chacune, il y a de la nature et de la beauté.
Et il y entre avec jubilation. Non seulement l'observation minutieuse et la perception des faits est un plaisir revendiqué, mais il dit
« C'est une joie, plus grande encore, de saisir l'enchaînement des causes. »
C'est-à-dire la finalité qui régit la constitution d'un être vivant. Totalement nouveau, ce travail d'observation est impressionnant. Aristote va répertorier plus de 500 animaux, dont une cinquantaine ont fait l'objet d'une dissection, comme le dauphin ou l'oursin. Il ne perd pas son temps à vouloir en dresser un inventaire exhaustif, comme le feront les naturalistes du XVIIIe siècle. Il lui paraît plus utile de comprendre les fonctions propres à chaque espèce. C'est pourquoi il consacre un traité spécifique, partie des animaux, à l'analyse de leurs organes, foie, intestin, cœur, reins, os, poumons, etc. Il en est de même pour la reproduction. Sa description du développement de l'embryon dans l'œuf de la poule est d'une précision clinique.
Après 3 jours et 3 nuits, le cœur, comme un point de sang, est dans le blanc et palpite comme quelque chose d'animé. Et à partir de lui, 2 conduits veineux pleins de sang en spirale se portent en direction des 2 tuniques qui l'enveloppent. Un peu plus tard, le cœur se différencie. La tête est apparente et ses yeux extrêmement protubérants. Au 10e jour, le petit est entièrement distinct, ainsi que toutes ses parties.
Cette exploration l'amène bien souvent à s'émerveiller de l'ingéniosité de la nature qui régule les organismes et leur permet de s'adapter à leur environnement. Ainsi, du chameau qui peut se nourrir d'épineux grâce à son palais corné et ligneux, ou de l'évent des baleines qui leur permet de respirer. Elle le conduit également à constater et à respecter les bizarreries de la nature. Comme l'autruche qui a, dit-il,
des cils, comme les mammifères, des ailes, comme un oiseau, et des sabots à ses pieds, comme un cheval.
Aristote admet que le monde vivant n'est pas parfait, mais il considère, selon sa formule, que
la nature réalise toujours le meilleur.
C'est-à-dire qu'elle dote chaque espèce des moyens de se nourrir, de se défendre et de se reproduire, donc de perdurer. Fondée sur l'étude des organes et de leurs fonctions, cette entreprise d'anatomie comparée lui permet d'opérer de grandes classifications. D'un côté des invertébrés, mous comme le poulpe, à coquille molle comme les crustacés, découpés en segments comme les vers. De l'autre, les vertébrés, poissons, reptiles ovipares, oiseaux ou mammifères. Au début du XIXe siècle, le grand anatomiste Georges Cuvier reconnaîtra admiratif qu'Aristote a laissé bien peu de choses à faire à ses successeurs en la matière. En dépit de ce coup de chapeau, la zoologie aristotélicienne sera très longtemps négligée, minorée, voire brocardée par les théologiens et les philosophes plus occupés à faire de l'exégèse de sa métaphysique. Mais depuis une 30aine d'années, une profonde réévaluation a été engagée, au point de faire de l'auscultation de la nature par Aristote le laboratoire de sa pensée, et de ses travaux sur les animaux le premier traité de biologie de l'histoire des sciences. Du logis daté, certes, et aux conclusions souvent pittoresques, mais entreprise fondatrice, qui fait du vivant un ensemble de fonctions organisées en système et porteurs de sens.